10h27 minutes. J'espère que ça va bien. J'espère que vous débutez bien l'année. 418-971-1021. Si vous avez des choses à nous dire, c'est moins 14 à Québec présentement. Avec le refroidissement éolien, moins 24. On salue les gens qui travaillent à l'extérieur. Ça ne doit pas être facile présentement. Ensoleillé pour aujourd'hui avec un maximum de moins 10 degrés. Pour ce qui est de ce soir, cette nuit, ce sera nuageux. Avec la faible neige qui fera en sorte que le mercure va être peut-être un peu moins froid. Donc, on va être autour de 11, près de moins 11 degrés. Mardi, demain, faible neige intermittente avec un maximum de moins 5. Mercredi, de la neige intermittente, maximum de moins 8. Jeudi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 2. Pour terminer la semaine de travail, ben ce sera ensoleillé avec un maximum de moins 2 degrés. Il est en studio avec son animal de compagnie, c'est la vétérinaire de Monvette à la maison. Elle s'appelle Natacha Barrette. Salut Natacha.
Salut Yannick.
Tu nous as fait le plaisir d'amener Babette en studio.
Eh oui, ma petite Babette.
C'est un caniche, mais un mini caniche. Hein?
Oui, elle fait à peine 5 livres.
5 livres.
Elle est tellement mignonne, ça n'a pas de bon sens.
2 ans, le visage rasé, avec sa petite coupe de cheveux en crête. C'est de toute beauté.
Elle va plus souvent chez la toiletteuse que moi chez mon coiffeur.
C'est tout le temps ça. Hein? Oui. Et qu'on embrasse.
C'est compliqué d'être la fille de vétérinaire quand on est un canin?
Ben écoute, elle n'a pas le choix de faire avec. Moi, je suis une fille de vétérinaire pour vrai aussi.
Ah oui?
Oui. Bien là, mon père est à la retraite, évidemment, il est rendu à 79 ans. Mais on était, à un moment donné, 5 dans ma famille à pratiquer en même temps.
Okay, mais ils doivent te raconter des histoires à n'en plus finir sur les animaux. Puis les techniques qui ont changé, oui, c'est une autre époque.
C'est ça. Mais écoute, c'est quand même palpitant de voir aussi toute l'évolution. Moi, tu sais, j'ai comme un regard des 30 dernières années, mais si j'ajoute les décennies aussi que mon père a eues, là, c'est ouf. J'ai grandi là-dedans.
Est-ce qu'à l'époque, il se déplaçait chez les clients?
Hey, c'est ça qui est spécial. C'est que c'est rare, les vétérinaires qui font du service à domicile.
OK.
Mais dans le fin des années 60, début 70, mon père le faisait à Montréal. Il l'a fait quand même pendant longtemps. Puis là, ben throwback dans le temps, c'est moi maintenant qui offre le service à Québec.
C'est ça qui t'a inspiré ou...
Je peux pas dire que ça m'a inspiré. Par exemple, j'entendais ces anecdotes de l'époque. T'sais. Ils se déplaçaient, mais il y avait à Montréal, il y avait des cartes pour trouver les adresses. Imagine! Je sais, moi, j'ai mon GPS.
On est ailleurs.
J'ai la misère à trouver. Là, t'sais. Fait que c'était autre chose. Là. Mais non, je pense que j'étais vouée tôt ou tard à faire ce genre de façon d'amener le service au client et à son animal plutôt que l'inverse.
Est-ce qu'on avait une vision différente des animaux? Parce qu'on dirait que j'ai l'impression, du moins, là, que dans le temps, tu sais, les chiens avaient une niche dehors, genre, puis c'était correct qu'on les rende pas l'hiver, ils dormaient dans leurs affaires. C'était vraiment un animal.
Oui.
Tandis qu'aujourd'hui, t'as même des humains qui comparent leurs animaux à leur bébé, là, leurs enfants, là, je veux dire, qui les aiment comme si leur vie en dépendait.
Oui. Bien, ça, c'est une des choses qui a énormément changé. La place de l'animal au cœur de la famille, c'est... Avant, l'animal avait plus une fonction. Là, de nos jours, beaucoup, beaucoup de chats, de chiens, bien, ils ont... Leur seule fonction, c'est de nous aimer, tu sais. À une époque, on avait des chats à l'étable pour s'assurer que la vermine ne soit pas trop abondante. Ceci dit, ça se fait encore là, mais, mais je parle plus, mettons, de... On va parler de la clientèle que moi, je vois. Là. C'est plus des animaux qui sont, comme tu dis, des enfants. Là. Ils font partie de la famille. Moi, j'entre dans les domiciles, puis je vois les photos de famille au-dessus de la cheminée. Là. Puis t'as le chien au beau milieu. Là,
ben oui, là, mais des photos de mariage maintenant. Oui. Je dis, c'est quasiment un must d'avoir une photo avec son chien.
Ah oh oui, oh oui. Puis souvent, ils font partie de la cérémonie. Ils sont intégrés. Là. Je trouve ça mignon. Certains diraient, c'est un peu too much. Mais... Moi, personnellement, là, à force de côtoyer les gens, là, j'ai appris à énormément respecter la vision que chacun peut avoir. On ne connaît pas l'histoire de tout le monde. Puis des fois, là, quand ils se confient, là, je me rends compte qu'il y a des raisons pour lesquelles l'animal est devenu aussi important.
Est-ce que la durée de vie des chiens a augmenté avec le temps ou elle a diminué? Parce que, bon, si on prend en ville, il y a des gens qui ont des chiens qui les sortent 2-3 fois par jour. Même des fois, c'est 5 à 6 fois par jour. Mm-hmm. Puis il y en a d'autres qui considèrent comme c'est un chien de maison, puis il va sortir dans la cour faire ses besoins, mais sans plus. Est-ce que ça nuit à leur qualité de vie, peut-être, à leur longévité?
J'ai pas d'études sur lesquelles me baser, mais je vais y aller plus sur mon expérience.
Ouais.
Comme j'ai travaillé en clinique pendant longtemps, puis dans différents milieux, que ce soit en... en Abitibi ou dans le centre-ville de Québec. Tu sais, j'ai fait les deux, là. Fait que, tu sais, j'ai quand même... Puis bien d'autres endroits aussi. Puis l'endroit où j'ai trouvé que les chiens étaient le plus en forme, c'était quand j'étais dans le centre-ville de Québec. Oh, parce que les gens marchaient. Ils allaient partout avec leurs chiens. Ils allaient, tu sais, ils venaient à la clinique à pied. Tandis que dès qu'on s'éloigne, veut, veut pas, les gens, ben, ils utilisent leur auto. C'est la même chose pour aller faire l'épicerie. Fait que le chien, justement, devient plus un chien qui va dans le cours pour s'amuser, qui va lui-même jouer tout seul à la baballe, tu sais. Tandis que quand on habite dans un appartement puis qu'on décide d'avoir un chien puis qui est important pour nous, ben, on le sort avec nous. On a le goût de l'avoir avec nous. Moi, Babette, si je pouvais, elle serait 100 % du temps avec moi. Évidemment, à cause qu'ils ne sont pas acceptés partout, je ne la traîne pas partout avec moi, mais il reste que j'ai trouvé que quand je travaillais, là, j'étais dans, vraiment en Haute-Ville ici, les animaux, les chiens étaient presque toujours avec un poids santé, ce qui était très exceptionnel.
Puis comment tu peux l'optimiser, justement, cette espérance de vie-là? Bon, là, je comprends l'exercice, comme
oui.
Nous, ça doit être la base, là, mais...
Oui. Bien, en fait, je te dirais que ça passe par un paquet de choses, mais au départ, c'est vraiment, je pense, de se questionner si on est capable, si on a le style de vie, si on a les finances, si, tu sais, vraiment faire un travail de fond avant même de se lancer dans le projet. Ça, je pense que ça peut énormément changer la qualité de vie puis la santé que l'animal qu'on va avoir. Parce que je vois trop souvent des gens se lancer dans un projet beaucoup trop ambitieux pour leur capacité, que ce soit, par exemple, ils n'ont pas le temps de sortir leur chien, mais ils vont chercher un chien, exemple, de type berger, qui a besoin de courir, qui a besoin de se dépenser, bien, ce chien-là va probablement avoir des problèmes de santé mentale, peut-être même des problèmes de santé physique, tu sais. Fait qu'il faut vraiment faire son devoir au départ.
Il y a des problèmes de santé mentale chez les animaux.
Ah oui, j'en ai la preuve ici, entre mes bras. Là, ça...
C'est de l'anxiété de séparation?
Non, je suis chanceuse, elle n'a pas d'anxiété de séparation. Okay. Mais elle a un suivi par une spécialiste. Elle est doublement médicamentée, ma petite Babette. Mais tu sais, tout le monde qui regarde à la caméra va voir qu'elle est super tranquille. Tu sais, elle déplace pas d'air. Mais c'était quand même un long travail pour en arriver.
Puis comment
là.
Ça se traduit, les problèmes de santé mentale? Parce qu'ils ne parlent pas, hein? Fait qu'on s'entend que c'est dur à déceler, là.
On dit souvent qu'ils ne parlent pas, les animaux, mais ils parlent en tabarnouche. C'est juste que c'est à nous de les observer puis d'interpréter, là. C'est sûr que d'avoir des connaissances médicales, ça m'a beaucoup aidé à comprendre que Babette n'était pas bien. Je voyais qu'elle n'était pas bien. Puis je savais que je lui fournissais tout ce dont elle avait besoin. Mais malgré ça, elle n'était pas bien. Puis ça, moi, ça me fendait le cœur. Tu sais, je me disais, je ne peux pas croire mon chien qui est tout jeune. Là, à l'époque, elle n'avait même pas un an, va vivre comme ça toute sa vie. Fait que j'ai fait ce que j'ai pu par moi-même. C'était déjà beaucoup parce que je suis vétérinaire. Je comprends que j'en ai fait probablement plus que monsieur, madame, tout le monde. Mais quand j'ai vu que j'avais atteint ma limite, je n'ai pas hésité à aller voir une spécialiste en comportement. Je n'ai pas attendu que ça fasse un an. Tu sais, j'ai réagi rapidement. Parce que c'est la même chose qu'avec les humains. Plus on attend longtemps, des fois, plus on a de travail à faire pour ramener la situation à la normale. Fait qu'elle a eu une très, très bonne spécialiste qui est ici, là, okay. À Québec, qui a fait son évaluation, son suivi. Puis on a du travail à faire qui n'est pas des médicaments, mais on a dû aussi la médicamenter pour qu'elle soit réceptive à ce que j'allais mettre en place, parce okay. qu'elle était trop dans son anxiété.
Avec ton entreprise, mon vet à la maison, est-ce que, supposons que moi, je veux mon vétérinaire à la maison pour que tu te déplaces chez moi, est-ce que mes assurances, si je me suis assuré pour mon chien, est-ce que mes assurances peuvent payer ce service-là?
Bon, deux choses. Premièrement, il faut savoir que mon vet à la maison, c'est un service d'euthanasie seulement. Ça a déjà été... plus que ça, là, j'ai déjà offert d'autres types de services, mais j'ai décidé de me consacrer à 100 % à l'euthanasie des chats et des chiens spécifiquement. Donc, pour répondre à la question, est-ce que les assurances vont couvrir? Bien, tout dépend aussi de l'assurance. Il y a des assurances qui couvrent beaucoup plus de choses que d'autres. Moi, mes clients qui me font venir chez eux pour l'euthanasie de leur animal et qui sont assurés, je sais que je remplis les papiers, je fournis les preuves de paiement et tout ça. Mais à savoir qu'est-ce qui leur est remboursé, ça va dépendre beaucoup de l'assurance. Fait que je ne suis pas au courant nécessairement, mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas ou...
En tout cas,
j'ai jamais entendu parler d'une assurance qui remboursait les frais de déplacement. Fait que ça, le frais de déplacement, je ne cacherai pas, c'est quand même une bonne proportion de la facture quand on est un vétérinaire à domicile. Mais j'ai des clients qui m'ont dit que les frais d'euthanasie allaient leur être remboursés parce qu'ils étaient couverts pour ça, là.
C'est super niaiseux, là, puis je vais me rentrer dans ce bateau-là, puis je suis sûre qu'on est une couple à pas savoir comment ça fonctionne. Moi, j'ai un Golden de 5 ans et demi à maison. Ouais. Les assurances en soi, ça marche comment? Tu demandes à ton assureur, mettons, de maison puis de voiture d'ajouter une assurance chien? Comment ça marche? On dirait que j'arrive comme pas à voir comment ça se fait.
Si on parle spécifiquement d'assurance médicale, parce que là, évidemment, au niveau de la maison, ça serait une bonne idée si vous adoptez un chien, d'aviser votre assurance habitation, parce qu'il y a certains chiens, des fois, qui, à cause de leur comportement et autres, vont peut-être... là-dessus, je m'y connais moins, là, mais j'ai déjà entendu dire que c'était nécessaire qu'on les avise. L'autre chose, maintenant, les assurances de type médical, ça, il y a un paquet de compagnies qui offrent ça maintenant. Ça a été long avant que ça débloque au Québec, parce que, je dirais, la mentalité d'assurer son animal, on voyait ça beaucoup dans l'Ouest canadien, on voyait ça aux États-Unis, mais au Québec, on avait... Je ne sais pas pour quelle raison, mais ça peut être long à expliquer. Là, j'ai des hypothèses, là, mais il reste que ça a pris du temps avant d'entrer dans nos habitudes de vie. Et là, maintenant, on a quand même accès à plusieurs, dont Desjardins, entre autres. Là, c'est pas parce que je pense que c'est les meilleurs que je les nomme. C'est plus pour parler là, de entre autres, les possibilités qu'on a. Mais c'est ça, il faut faire des recherches sur Internet. Ils ont tous des différences, des avantages, des inconvénients. Et dans chaque compagnie, on peut couvrir juste pour les accidents, puis d'autres vont couvrir des soins de prévention. Évidemment, plus on couvre de choses, plus ça coûte cher. Plus on attend pour assurer son animal, plus ça coûte cher aussi.
Arrête! Ben, c'est bon à savoir, ça.
C'est sûr que le meilleur moment pour assurer ton animal, c'est lorsque tu l'adoptes. En fait, je vais prendre l'exemple de Babette. Moi, j'ai mis en fonction son assurance la date où je suis allée la chercher chez l'éleveur. Je me disais, tu sais, il s'agit d'une bad luck, puis il ne faut pas oublier qu'il y a un genre de délai, là, quand tu assures un animal. Il y a toujours un délai, peut-être pas toujours, mais mon assurance à moi, il y avait un délai de 30 jours. Dans ce délai-là, si elle tombait malade, elle n'avait pas de couverture. Évidemment, elle est tombée malade, je me suis ramassée aux urgences. Bon, c'est pas grave, j'ai payé le plein prix, puis c'est correct. Mais c'est ça, il y a toutes sortes de petites particularités là, qu'il faut connaître.
C'est-tu bien cher? Ça vaut-tu la peine au bout du compte? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui hésitent à la prendre en se disant « Peut-être que mon chien sera jamais malade, puis je vais en payer ça toute sa vie. »
C'est la même chose que les assurances pour les humains. T'sais. On peut payer toute notre vie une assurance invalidité, puis Dieu sait que ça coûte cher, ces assurances-là. Là. Puis jamais en avoir eu besoin, comme on peut, à 50 ans, tomber gravement malade puis plus jamais être capable de travailler, puis on va donc être content de les avoir pris. Fait que c'est la même chose pour les assurances animales. Voyant comment le coût des services vétérinaires est rendu, sachant qu'une bad luck est si vite arrivée, puis de voir... bon, là, c'est un peu extrême, mais tu sais, aller jusqu'à faire euthanasier son animal pour des raisons financières. Je suis pas en train de juger les gens quand je dis ça, mais tu sais, si l'animal est assuré, des fois, ben on sent plus capable d'aller loin dans les soins qu'on va offrir à nos animaux. Puis si je peux donner aussi un indice, les vétérinaires, on assure nous-mêmes nos animaux, hein? Nous autres aussi, on les assure. Fait que c'est parce que moi, je sais qu'il y a des soins que je peux pas offrir à mon chien. Si elle se casse une patte, moi, c'est pas moi qui vais la réparer, là, tu sais. Fait que... puis je vais trouver ça cher, même pour moi, là, tu sais. Fait que c'est pour ça. Mais il faut commencer jeune, quand ils n'ont pas encore de bobos, parce que les assurances, plus t'attends, plus si ton chien a eu une otite, il y a eu une boiterie, il y a eu, tu sais, deux, trois problèmes, bien, ça peut être exclu de ton assurance. Fait que là, à un moment donné, tu payes, mais t'es pas aussi bien couvert. Moi, Babette, ça me coûte une soixantaine de dollars par mois pour la couvrir, puis ça couvre pas les soins de prévention. C'est le médical, le chirurgical, ces choses-là. Mais... c'est pour moi, c'était essentiel de me dire, si un jour elle tombe gravement malade, il n'y aura pas de limite dans les soins que je vais lui offrir.
Puis là, juste pour donner une idée aux auditeurs, là, Babette, elle est minuscule. Là. C'est quoi, 20-25 livres, ça, maximum?
5 livres. Moins 5 livres.
5 livres? Ouais. Oh mon Dieu, OK, j'étais haut, là.
Écoute pas ça, Babette.
J'imagine...
Tu m'as complexé.
J'ai ça, je veux pas, on est en début d'année, là, je veux pas. Non, mais c'est parce que j'imagine que le prix varie aussi d'un petit 5 livres comme ça à mon 100 livres de Golden.
Ça marche pas à livre, en fait. Okay. Ben, en fait, c'est que Babette est quand même à risque, tu sais, d'une chute, d'une morsure, à l'air d'un petit écureuil, hein. Fait que ça serait facile qu'un chien se détache, tu sais, le maître échappe sa laisse, puis il vient pour la croquer.
Fait que c'est à la race?
Ben, Oui, eux autres là, ils ont des actuaires, hein, puis pas peur que tout est bien, bien calculé. Ils savent que pour telle race, il y a tel risque. Il y a des races qui sont vraiment à gros, gros problèmes, puis il y en a d'autres que c'est plus rare. Les problèmes sont plus rares. Fait que, tu sais, c'est aussi tenu compte là, dans l'évaluation du dossier.
Natacha, on va faire une pause exceptionnelle parce qu'aujourd'hui, on a un Justin Trudeau qui va vraisemblablement démissionner dans les prochaines minutes. Il devrait parler vers les alentours de 10h45. Donc, on va faire une pause. Après ça, on va faire entendre Justin Trudeau qui devrait annoncer la suite des choses pour son poste de premier ministre du Canada. Puis après ça, on va revenir avec toi. Est-ce que tu as le temps?
Ben oui, mais là, Justin me fait ombrage. Je suis un peu déçu, par
exemple. On garde avec nous.
10h43, on vient. 47, Justin Trudeau qui se fait attendre, un peu en retard.
Toujours retard.
Il est à la tire. Donc, on va surveiller ça attentivement. Aussitôt qu'il se présente au micro, on va faire entendre la conférence du premier ministre du Canada qui devrait démissionner dans les prochaines minutes.
Imagine.
S'il y a quoi que ce soit sur la route 418-971-1021.
Il y a quelque chose dans le coin de Val-Bélair à la hauteur de l'avenue industrielle, là, dans les deux directions sur Henri IV, finalement. Là, et il y a un petit ralentissement. Ça doit être excessivement difficile. T'sais, il est derrière sa porte. Là, lui, doit se dire, bon, ça y est. Peu importe ce qu'on en pense du gars, là, je veux dire, il faut que tu aies annoncé publiquement parce que tu passeras pas le mercredi.
Je sais pas
que c'est terminé.
Je sais pas s'il est comme moi, mais moi, j'ai eu à faire ça une fois dans ma vie. Puis j'étais pressé de le faire, puis j'étais soulagé par la suite.
Pour vrai?
Vraiment.
Bien, ça doit être un fardeau que tu t'enlèves de sur les épaules.
Parce qu'une fois que tu as pris ta décision, puis là, tu sais que ton prochain rendez-vous avec la personne, exemple, c'est dans 2-3 jours.
Non, mais c'est pas vraiment sa décision.
Ces heures-là, ben oui, là, il aurait pu rester là, puis se faire sacrer dehors mercredi par son caucus. Là.
Ça aurait été gênant puis humiliant.
Ça aurait été gênant.
Tu veux pas que ce soit ça qui reste dans l'histoire, mettons.
Mais moi, c'était ça. T'sais, une fois que j'avais pris ma décision, il fallait que je l'annonce. J'avais hâte que ça se fasse, puis ça se fasse très rapidement.
Passe à autre chose.
Après ça, tu te sens complètement libéré.
J'en doute pas.
Je veux dire, il est indépendant de fortune de par son père. Puis, ben, il va avoir sa rente, bien entendu, de politicien. Il manquera jamais de rien. Il est encore très jeune. Il est célibataire. Mmh. Fait que d'après
c'est
moi, tu sais, il y a plein de belles choses qui vont possiblement y arriver dans les prochains mois, les prochaines années.
J'y souhaite.
Il
n'est
pas au
vrai,
bout de sa vie.
Je sais pas s'il va vouloir rester d'un parage d'une façon ou d'une autre ou s'il va complètement se retirer.
C'est une bonne question. L'avenir nous le dira. Pendant ce temps-là, on va jaser avec Natacha Barrette, qui est avec nous, qui est vétérinaire. Elle a son entreprise qui s'appelle Mon Vet à la maison. C'est un service d'euthanasie pour les animaux. Comment ça se passe? Hein? Les gens t'appellent chez toi et tu te présentes chez eux. Y a-t-il une cérémonie? Comment ça fonctionne?
Premièrement, les gens me contactent via mon site web. Ils remplissent un formulaire parce qu'il y a quand même un paquet d'informations que j'ai besoin pour ma planification.
Ouais.
Après ça, ben, on fixe un moment où je vais passer. Puis, sur place, mon côté, le côté plus médical, je peux dire, est toujours le même. Il y a toujours les mêmes étapes au même moment. Mais évidemment, je te dirais, le côté plus humain, ça varie énormément. La majorité du temps, les gens ont besoin, justement, c'est pour ça qu'ils veulent faire ça à la maison, ils ont besoin d'être chez eux, ils ont des rituels.
Pour l'animal aussi, être chez lui.
Ça doit être moins stressant.
Ben, tu sais, j'ai déjà amené mon chien qui a manqué d'air, là, mon Golden, à SPA pour aller chercher, parce qu'on est une famille d'accueil de la SPA.
Okay.
Fait qu'on est allé chercher des petits chats. Puis le chien, mon Golden, il se posait vraiment des questions. Tu vas-tu m'abandonner ici? Fait que, tu sais, ils sentent, là, sont nerveux.
Oui, ouais, effectivement. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui aiment aller à la clinique vétérinaire. Ça reste quand même des exceptions. Puis là, ben, il faut penser bon, à son bien-être, à lui, évidemment, cet animal-là, mais aussi celui de tous les humains là, qui l'entourent, qui ont à vivre ce moment-là et qui vont s'en rappeler toute leur vie. C'est plate à dire, mais on s'en rappelle de ce moment-là, puis ça peut être très, très positif, comme ça peut être très traumatisant.
C'est vraiment en poche comme question, là, mais il se passe quoi avec la dépouille?
Je repars avec, majoritairement, à moins que les gens désirent garder la dépouille pour aller eux-mêmes au crématorium, ou des fois, ils ont des terres agricoles, puis ils peuvent l'enterrer sur leur terrain.
Est-ce que j'ai le droit de l'enterrer à Québec sur mon terrain, dans le cours arrière? Je pense pas.
Non, pas à la ville de Québec. Ceci dit, bon, à savoir ce que les gens font de la dépouille après mon départ, moi, je les avise de toutes les contraintes, tout ce qu'ils ont à savoir, puis Je ne suis pas la police des dépouilles, là, tu sais, je ne débarque pas chez eux pour vérifier, mais moi, je leur donne toute l'information, puis ils savent, dans le fond, qu'ils n'ont pas le droit. Mais il y a quand même des gens, des fois, c'est sûr, qui ont des terrains là, en campagne et tout ça. Mais moi, sinon, je repars avec la dépouille. Puis, il y a soit une crémation individuelle avec le retour des cendres. C'est de plus en plus demandé. Puis sinon, c'est une crémation quand même, mais il n'y a pas le retour des cendres par la suite.
Puis il y a beaucoup de gens quand même aujourd'hui qui demandent d'avoir les cendres de leurs animaux pour les garder à la maison.
Dans ma clientèle, il y en a beaucoup plus qui veulent une crémation individuelle que sans retour des cendres. Mais j'ai une clientèle, tu sais, un peu nichée, là, si je peux le dire ainsi, de gens qui sont prêts à me faire venir chez eux pour vivre ce moment-là. Fait que c'est aussi ces mêmes gens-là qui sont plus propices à vouloir avoir les cendres par la suite.
Est-ce qu'il y a des trucs pour aider les animaux vieillissants à la maison?
Il y en a beaucoup, puis ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant à développer les connaissances des gens sur le sujet, parce que moi, là, quand j'arrive pour l'euthanasie d'un très vieux chien ou d'un très vieux chat, je suis dans l'environnement, je le vois tout ce qu'ils ont fait pour que leur animal puisse avoir une qualité de vie jusqu'à la fin. Mais malheureusement, c'est pas tout le monde, des fois, qui peut y penser par soi-même. Moi, je trouve ça important qu'on en parle. Comme par exemple, un golden. Là, je prends l'exemple parce que ton chien, on en a parlé tantôt à micro fermé. Mais tu sais, un chien vieillissant, des fois, la force musculaire de ses pattes arrière commence à être moins bonne. Puis là, se soulever du sol devient difficile. Puis là, si le sol est glissant, ils peuvent se blesser un genou et demander même, à la limite, une procédure chirurgicale. Fait qu'on veut leur éviter ça. Fait qu'on peut mettre des tapis antidérapants ou si on voit qui passe beaucoup de temps couché, bien, lui fournir un lit de type orthopédique où là, les points de pression vont pas... Il y a moins de risques que ça endommage s'il reste couché longtemps. C'est sûr que des fois, j'ai des clients, on dira... Tu sais, moi, je les juge pas, mais certains vont être jugés comme extrêmes. Mais moi, j'ai des clients qui vont faire porter la couche à leur animal qui est devenu incontinent. Évidemment, on ne met pas de couche à un animal juste parce qu'on ne veut pas le sortir faire ses besoins, mais s'il commence à perdre ses fonctions puis qu'il dégoûte de l'urine, est-ce que cet animal-là est heureux? Est-ce qu'il y a encore du bonheur? Si la réponse est oui, s'il n'est pas souffrant, bien moi, j'ai des clients qui sont en mesure, qui sont capables, qui veulent se rendre aussi loin que ça. J'ai appris à ne pas les juger parce que je trouvais ça un peu intense au départ, mais j'ai réalisé à quel point ils ont pu, dans certains cas, donner des mois et des mois de bonheur supplémentaire à leur animal. Pour les chats, il faut penser à l'accès de la litière. Ça, c'est une des choses qui est la plus négligée, je dirais. La litière devient de plus en plus loin pour un chat vieillissant. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus loin, mais lui, il trouve ça plus loin. Fait qu'à un moment donné, prendre la peine de marcher jusqu'à la litière devient difficile. Fait qu'il peut commencer à faire ses besoins... Je pensais que mon chien voulait vomir. Elle a le hockey. Excusez-moi, j'ai eu une petite crainte. Fait que la litière, il faut la rapprocher. Il faut que le bas ne soit pas trop haut. Il faut... Excusez-moi, elle fait des drôles de sons.
Ah, veux-tu vomir?
Ça se peut qu'elle vomisse.
Je peux pas croire.
Elle vomira. Ça
serait peut-être la première fois qu'un de vos invités vomirait à côté du micro, mais bon, j'espère, en tout cas pour vous. C'est ça. Fait que la litière, il faut qu'elle soit accessible. Il ne faut pas que le bac soit trop haut. Il ne faut pas qu'il y ait des marches pour se rendre. Tout ça, ça joue beaucoup sur la qualité de vie, mais c'est aussi ce qui empêche le chat peut-être d'aller régulièrement à la litière. Fait que là, il va être porté à constater. Il va être porté à retenir son urine, il pourrait faire des troubles de cristaux urinaires, etc., etc. Fait qu'il y a beaucoup de choses. C'est de s'informer auprès des gens qui s'y connaissent. Les vétérinaires, on est formés pour ça. Fait que vous pouvez facilement aller en consultation et dire « J'ai un animal âgé, maintenant, aidez-moi à trouver ce que je dois faire. » Il y a des groupes sur Facebook, des groupes en ligne de gens qui ont des animaux vieillissants puis qui se donnent des trucs entre eux. Là, on ne parle pas de tomber dans du médical. Là. C'est pas essayer tel médicament ou autre. C'est vraiment des trucs de... C'est où tu as pris ton lit? C'est quoi la meilleure litière pour un chat vieillissant? Là, là. Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut échanger, mais il faut s'informer parce qu'il y a des choses à faire quand notre animal est vieux.
On pense quoi de la... C'est phytothérapie, si je ne me trompe pas, le terme.
La thérapie par les plantes.
Oui, bien, il y a des marques qui sont sortis dans les dernières années, surtout pendant la pandémie, de je vais appeler ça des médicaments, là, c'est peut-être pas le bon terme, là, que tu peux donner à tes animaux pour les aider, que ce soit pour mille et un problème, mais c'est des affaires naturelles, justement.
Oui, je suis pas la personne la mieux placée pour y répondre. C'est pas que je dit que c'est pas valide. C'est juste que souvent, malheureusement, ça coûte cher faire des études sur des animaux. Tu sais, si on prend juste les chiens, ben il y a du petit chien de 3 livres jusqu'à 180 livres. Fait qu'il n'y aura pas une étude qui va couvrir tout ce spectre-là. Fait qu'à un moment donné, on extrapole beaucoup à partir de ce que ça donne chez l'humain. Mmh. On fait des observations subjectives. Mmh. Mais tu sais, est-ce que ça marche vraiment? Encore là, ça pourrait très, très bien fonctionner, mais moi, je ne suis pas en mesure de vous le dire.
En même temps, tu sais, les gros chiens ne vivent pas très longtemps. Si tu lui demandes, veux-tu de la viande ou encore des plantes, il va te dire, là, tu me niaises.
Donne-moi un break.
les gros chiens, ben, spécialement les Golden, parce que moi et Audrey, on est des propriétaires, des papas et des mamans de Golden. Ils ont une tendance à, avec leurs hanches, quand ils se couchent à terre, là, ils ont tendance à les renvoyer par en arrière, leurs jambes par en arrière, comme s'ils voulaient se faire refroidir le ventre.
Ouais.
Comprenez-vous ce que je dis?
Comme oui. Ils font la grenouille.
Ils font la grenouille, voilà. Fait qu'ils font la grenouille. Je regardais sur des sites de justement Facebook de gens qui sont amoureux des Golden. Il y en a qui essaient d'habituer leur chien à ne pas s'asseoir comme ça. Écoute, j'ai essayé. Ça n'a jamais fonctionné. Mmh. J'essayais tout le temps de le redresser en disant « Non, non, assieds-toi pas sur le ventre. » Puis, écoute, à un moment donné, j'ai abandonné. Il le fait encore. Là. Est-ce que ça peut créer une problématique pour nos gros chiens?
Je sais qu'on voit plus souvent des chiens qui ont de la dysplasie se coucher en grenouille. Mais est-ce que parce qu'un chien se couche en grenouille, il a nécessairement la dysplasie ou est-ce que ça va l'amener à faire de la dysplasie? Ça, j'ai rien vu à ce sujet-là. C'est sûr que si un animal se couche comme ça, mais qu'autrement, à l'examen vétérinaire, on ne trouve rien, il a une belle masse musculaire, il ne boite pas, il joue, tu sais, il peut faire des marches de longue durée, je ne pense pas qu'on devrait voir ça comme une indication d'un problème. Mais si on a un doute, il faut s'adresser à notre vétérinaire. Il n'y a malheureusement pas de test sanguin ou de test physique sûr à 100 %. Des fois, on peut quand même vérifier la laxité de la hanche, mais la façon, le standard, c'est radiographique. Puis il faut que l'animal soit très détendu quand on fait la radiographie pour vraiment avoir un positionnement parfait. C'est ça qui va nous dire s'il y a un problème avec les hanches. Fait que c'est sûr que si votre chien se couche en grenouille, mais qu'il va A1, puis que c'est un chien de compagnie que vous ne reproduisez pas, il ne boite pas, tout va bien, parlez-en quand même à votre vétérinaire, juste par précaution. Mais si c'est juste ça, moi, je pense pas qu'il faut... Non, il ne faut pas s'affoler. Mais encore là, si c'est un animal de reproduction, que lui, on veut que sa génétique soit parfaite ou la plus proche du parfait possible, bien, on va faire systématiquement les radiographies. Il y a aussi beaucoup de cliniques qui, au moment de la stérilisation, vont offrir la vérification des hanches. Parce que comme l'animal est endormi, il est détendu, on peut vérifier s'il y a un lousse anormal au niveau de sa hanche. C'est sûr que dépendant de l'âge où il est rendu, c'est peut-être pas final non plus, là. Mais si on détecte un problème, bien là, après ça, on peut justifier d'aller plus loin par des radiographies ou des suivis vétérinaires.
Il y a quelqu'un qui nous a demandé par texto, je salue Roger, qui dit « Depuis quelques mois, la mienne vomit souvent sa nourriture. On a switché de la bouffe humide parce qu'elle ne peut plus manger de croquettes, même humectées. Pourquoi? Ce serait-tu des mal de dents?
Si » La mienne étant, il précise-tu?
Je pense qu'on parle de chien ici, loin.
OK. C'est sûr qu'un animal qui vomit sa nourriture, je sais que ma réponse va être plate, là, mais moi, je serais portée à faire une évaluation par le vétérinaire. Il y a tellement... Tu sais, c'est difficile pour nous, les vétérinaires, avec juste quelques données comme ça, là, de se prononcer parce que, tu sais, je ne sais pas si c'est un jeune animal, si c'est un animal âgé, il peut-tu avoir un problème... exemple au niveau métabolique qui demande une prise de sang. Il y a comme une multitude. Tu sais, le vomissement, c'est un symptôme. C'est comme si moi, je tousse dans le micro. Là. Je peux avoir la COVID, je peux avoir une pneumonie, je peux avoir la maladie du fumeur ou je ne sais pas trop. Là. Fait que c'est un symptôme, mais le symptôme se ramène à plusieurs maladies. Puis juste comme ça, je sais que c'est décevant, mais moi, je ne trouve pas ça normal. Je pense que ça reflète un problème de santé. Puis je pense qu'un examen vétérinaire où le vétérinaire va pouvoir poser plein de petites questions pointues, puis va pouvoir évaluer l'animal, puis faire des suggestions.
Parce que Roger nous parle d'alimentation, on dirait que j'ai envie de te demander, cru ou les croquettes, c'est quoi l'idéal? Parce que quand tu t'achètes un chien, j'ai l'impression que c'est toujours la question que tu te poses. Je ne sais pas toi, Yann, avec le tien, mais moi... On, pour vrai, nous, on a regardé les options, puis on n'avait pas assez d'argent pour du cru, fait qu'on est allé vers les croquettes, mais on n'arrêtait pas de se faire dire le cru avec les suppléments, c'est ce qu'il y a de meilleur.
Ouais, moi, j'alterne. Écoute, on va faire une petite aparté parce que Justin Trudeau s'amène nos micros.
Je retiens ma question.
Et dans les prochaines secondes, on devrait être en mesure de savoir quel sera l'avenir de notre premier ministre du Canada. Allons-y.
Bon matin. Every morning I've woken up as Prime Minister, I've been inspired by the resilience,
j'ai aspiré à la résilience, la générosité et la détermination des Canadiens.
It is the driving force of every single day I have the privilege of serving in this office.
Qui me pousse à servir dans ce poste. C'est pourquoi depuis 2015, je me suis battu pour ce pays, pour notre pays, pour nous. Pour enrichir la classe moyenne, traverser la pandémie, avancer la réconciliation, défendre le libre-échange sur le continent, se tenir fort pour l'Ukraine et la démocratie et se battre contre les changements climatiques et de préparer notre économie à ces changements. Nous sommes à un moment critique.
À chaque matin, je me suis réveillé en tant que premier ministre inspiré par la résilience, la générosité et la détermination qui nous caractérisent si bien en tant que Canadiens. C'est ce qui me motive à chaque jour où j'ai le privilège de servir dans ce poste. C'est pourquoi, depuis 2015, je me suis battu pour ce pays, pour vous, pour renforcer la classe moyenne. Pourquoi nous nous sommes mobilisés en tant que Canadiens pour se soutenir les uns les autres pendant la pandémie, pour faire progresser la réconciliation, pour défendre le libre-échange sur notre continent, pour notre soutien inébranlable de l'Ukraine et de la démocratie, et pour lutter contre les changements climatiques et préparer l'économie de l'avenir. Nous traversons vraiment un moment critique dans le monde.
My friends, as you all know, mes amis, comme vous le savez, je suis un combattant. Chaque fibre de mon être me dit de me battre parce que je tiens aux Canadiens et à notre pays. Je serai toujours motivé par les meilleurs intérêts pour les Canadiens. Et les faits sont que, malgré nos efforts de travailler au travers de tout cela, le Parlement a été paralysé dans les derniers mois, après la plus longue session d'un gouvernement minoritaire. Mais ce matin, j'ai dit au gouverneur général que nous avons besoin d'une nouvelle session parlementaire. Elle m'a accordé ma demande et le Parlement sera donc prorogé jusqu'au mois de mars 2024. Durant les fêtes, j'ai aussi eu le temps, du temps de réflexion avec mes proches vis-à-vis de mon avenir. Tous les succès que j'ai eus dans ma carrière ont été grâce à leur soutien et leurs encouragements. Donc, hier soir, au souper, j'ai dit à mes enfants, je vais partager à mes enfants la décision que je partage ce matin avec vous. J'ai l'intention de démissionner comme chef de parti et comme premier ministre après que le parti ait choisi son nouveau chef avec un processus robuste. J'ai dit au parti hier de commencer ce processus. Notre pays mérite un choix clair aux prochaines élections. Je ne peux être la meilleure option dans la prochaine élection.
Comme vous savez, je suis un fighter. Dans mon fort intérieur, je me suis toujours battu parce que je me soucie profondément des Canadiens. Et je serai toujours motivé parce qu'il est dans le meilleur intérêt des Canadiens. Et le fait est que malgré tous les efforts déployés pour passer à travers, le Parlement est paralysé depuis des mois, après ce qui a été la plus longue session d'un Parlement minoritaire dans l'histoire de notre pays. C'est pourquoi ce matin, j'ai rencontré la gouverneure générale pour lui faire savoir que nous avions besoin d'une nouvelle session du Parlement. Elle a accédé à ma demande et la Chambre sera donc prorogée jusqu'au 24 mars. Pendant le temps des fêtes, J'ai également eu l'occasion de réfléchir et d'avoir de longues conversations avec ma famille quant à notre avenir. Tout au long de ma carrière, tout le succès que j'ai eu personnellement est dû à leur soutien et à leurs encouragements. Donc, hier soir, au souper, j'ai partagé avec mes enfants la décision que je partage avec vous tous aujourd'hui. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef à l'issue d'un processus national, rigoureux et compétitif. Hier soir, j'ai demandé au président du parti de commencer les étapes nécessaires. Le pays mérite un choix clair et réel lors des prochaines élections. Il est devenu évident pour moi que si je dois me concentrer sur des batailles internes, je ne peux pas être la meilleure option lors de ces élections. Le Parti libéral du Canada est une institution importante dans l'histoire de notre grand pays et de notre démocratie. Un nouveau premier ministre et chef du parti portera les valeurs et les idées du Parti libéral dans la prochaine élection. J'ai hâte d'observer le déroulement de ce processus dans les mois à venir. Nous avons été élus pour la troisième fois en 2021 pour renforcer l'économie après la pandémie et faire progresser les intérêts du Canada dans un monde complexe. Et c'est exactement ce que je vais continuer à faire, ce que nous allons continuer à faire pour les Canadiens. The Liberal Party of Canada is an important institution.
Donc voilà, Justin Trudeau qui annonce qu'il démissionnera de son poste de premier ministre et quittera tout simplement le Parti libéral là, dès qu'on aura choisi un prochain chef libéral. Donc le Parlement est prorogé jusqu'au 24 mars. Donc voilà, on se reparlera d'ici là certainement. Puis avec Denis, on va en parler vers les alentours de midi. Mais il n'y avait plus d'autre choix puisque mercredi, il y avait un caucus qui était organisé et on allait le mettre dehors.
Ça changeait-tu quelque chose sur la pension, ça?
Non,
qui se fait mis dehors ou qui démissionne, ça change rien?
Non, pas du tout.
Fait que c'est vraiment juste pour l'image, finalement, qu'on a décidé de sortir aujourd'hui puis de démissionner au lieu de se faire mettre dehors.
Exact. Parce que pour l'histoire, c'est mieux qu'il démissionne de par lui-même que de se faire démissionner.
Je comprends. C'est pas à dire, mais je comprends totalement.
Exactement. Donc, on en reparlera avec Pascal tantôt dans Marceau le midi. Puis Denis va se joindre à nous vers les alentours de midi, puis on va en parler aussi. Mais d'ici là, les successeurs de Justin Trudeau, écoute, j'ai quelques noms à te donner. Mélanie Joly, qui est une Québécoise, une personne qui est en politique depuis des années. Je te dirais qu'il faudrait qu'elle s'ajuste là, au niveau de son français quand elle parle. On a l'impression qu'elle parle à des enfants de 4 ans. C'est un peu difficile quand tu es un homme de 50, 60 ans d'entendre cette personne-là parler quand tu te dis, mais écoute, elle me parle-tu à moi ou elle parle à des enfants dans une garderie?
Christian Freeland
aussi, qui pourrait être un bon choix. On a Mark Carney qui est pas mal dans les tops, là, qui est l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, qui pourrait être mis en place. Puis on a Dominique Leblanc aussi, qui est un poids lourd là, du côté libéral. J'ai vu tantôt sur certains sites spécialisés en politique où j'aime bien aller lire. Jean-Yves Duclos. Ah. Je pense pas.
Ça serait épatant un peu.
Ça serait très épatant. Mais si vous me donnez là, mon choix à moi, ce serait Mark Carney. Puis c'est pas nécessairement mon choix, c'est ce que je pense qui va arriver. Mark Carney ou même Mélanie Joly.
Mark Carney, c'est pas à lui qu'on avait offert la possibilité de devenir ministre des Finances à la place de Chrystia Freeland?
On a offert à Mark Carney...
Il a refusé.
...la job de Chrystia Freeland. On a dit à Freeland, on veut plus de toi. Elle a démissionné. Mark Carney a dit, finalement, ça me tente putain.
Ah, oh, belle gang de crétins.
Ben ouais, c'est de la politique. OK, hey, on revient à notre programmation régulière puisqu'on a le plaisir d'être avec Natacha Barrette, qui est la propriétaire de Monvette à la maison. Le coût des vétérinaires. Puis là, je sais que bon, c'est un peu particulier de parler d'argent. Mais quand je vais chez le dentiste, je trouve que ça coûte cher, le dentiste. Quand je vais chez le vétérinaire, je trouve que ça coûte cher, le vétérinaire. Pouvez-vous nous dire pourquoi ça coûte si cher, ces frais-là?
Bien, premièrement, on parle de ressources humaines qui sont spécialisées. Donc, un vétérinaire, des techniciens, techniciennes, des animaliers, animalières, Bien, ça a un coût. Puis, je veux dire, ça coûte cher vivre, puis les salaires sont en fonction de ça. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que si on parle d'un hôpital vétérinaire, ouais. un endroit où il y a vraiment certaines installations sur place, là, dont l'appareil à radiographie, qui est souvent du numérique, bien, c'est cher. T'sais, si on prend l'appareil à radiographie de l'hôpital Enfant Jésus, là, elle se rentabilise assez vite là, au nombre de radios qu'ils font dans une journée.
Ouais.
Mais nous autres, là, en clinique vétérinaire, on n'en fait pas autant. Hein? Mais j'ai le goût de, coûte le même prix.
J'ai le goût de te donner une piste. Écoute, c'est une hypothèse que j'ai. Là, c'est que le système de santé, on n'a pas l'impression qu'il coûte quelque chose parce qu'on ne sort pas d'argent de nos poches mm-hmm. quand on va à l'hôpital. T'sais, on présente notre carte d'assurance maladie à l'hôpital, puis on a l'impression que tout ça, c'est gratuit, alors que ça nous coûte une fortune. C'est plus d'un milliard par semaine qu'on donne au système de santé québécois. Mais quand on va chez le dentiste, quand on va chez le médecin, chez le vétérinaire, pardon, on se fait charger le vrai coût pour mmh. notre animal ou encore pour l'hygiène de nos dents. Mmh. C'est pour ça que les gens font un saut, tu sais. Ouais. « Colin, ça coûte donc bien cher. » Je pense que ça peut être ça qui fait en sorte que les gens ont l'impression que ça coûte plus cher.
Oui. Puis des fois, ce que je dis aussi aux gens, là, pour qu'ils prennent conscience, c'est que, bon, l'impôt, là, c'est ça qui paye. Là. Tu sais, quand on paie de l'impôt, il y a une grande proportion qui s'en va au système de santé. Et ce, même si tu n'as pas eu recours cette année-là.
Ouais.
Fait que tu paies pour tout le monde, ce qui est parfait, parce que je voudrais pas qu'on devienne comme les États-Unis. Hein? Mais, en quelque part, on paye cher, mais c'est juste que c'est caché à exact. Travers autre chose.
Mais gars, je vais donner des montants là, pour les soins en ce moment, les frais, mettons, reliés à l'hospitalisation des humains, okay, mm-hmm. là, ce qui est couvert, nous, par l'assurance maladie. Si tu es en soins intensifs en salle, okay, par jour, 14 460 $ Par jour, si tu as une hospitalisation, 5 631 $ C'est une chirurgie d'un jour. Fait que je sais pas, tu as un doigt gâchette, il faut que tu te faire arranger ça. C'est 5 000 $ Fait que tu sais, c'est des frais qu'on voit pas effectivement parce qu'on les paie pas sur le moment quand on se présente, contrairement peut-être quand on va en salle vétérinaire finalement. Mm-hmm. Là. Puis tu sais, je sais que c'est un sujet qui est toujours sensible. J'ai l'impression que les vétérinaires sont écœurés bien raides de parler de ce sujet-là. Mettons qu'on se dit vraies affaires.
Ah, oh, ben oui, je te le confirme.
Puis d'un autre côté, ben tu as les gens qui manquent de sous qui trouvent que c'est trop cher, sauf qu'en même temps, on est rendu dans la technologie assez avancée pour pouvoir faire en sorte que nos animaux ont une plus grande espérance de vie, qu'on peut en prendre soin. Malheureusement, c'est sûr que ça vient avec
le
des coûts.
Le coût vient avec, oui.
Ouais.
On est très conscients, les vétérinaires, que c'est cher pour une partie de la clientèle qui déjà a de la difficulté à subvenir aux besoins de sa famille. Ouais. On n'est pas inconscient de ça. Il y a des initiatives qui ont lieu aussi, des campagnes de stérilisation pour les gens à faible revenu. Il y a différentes choses qui vont se mettre en place avec le temps. Il y en a qui sont déjà en place, d'autres qui vont s'ajouter. Donc, il y a quand même cette volonté, mais en même temps, on est en pleine pénurie de vétérinaires. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est un peu compliqué de tout, de voir à tout ça en même temps. On est des gens qui sont très, très dévoués à notre travail. Il faut savoir que des fois, les gens... Puis ça, je sais qu'on devrait peut-être pas le dire, là, mais tu sais, des fois, on le sait que les gens ils ont moins de sous. Fait qu'on prend sur nos épaules certaines dépenses.
Ah ouais.
Ceci dit, je peux pas dire, attendez-vous que votre vétérinaire va faire ça pour vous. Mais tu sais, on fait tout ce qu'on peut. Là, tu sais, c'est vraiment... On étire l'élastique autant qu'on peut. On essaie des fois des traitements sans avoir pu faire les diagnostics, sans avoir eu recours aux tests, parce que notre client n'en a pas les moyens, mais on ne va pas le laisser tomber, on va continuer d'essayer autant qu'on peut. Nous, ça nous déchire, là. Littéralement. C'est un peu pour ça, je pense, qu'à un moment donné, les gens, quand ils nous ramènent souvent ça à l'argent, parce que c'est surtout qu'on nous demande de nous justifier constamment. Tu sais, je veux dire, je suis pas sûre qu'à vos autres invités ou toi, Marceau, là, si je te demandais de me justifier ton salaire, puis qu'à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, il te le demandait, tu dirais, ça me tombe ses nerfs.
C'est redondant.
Bien, c'est parce qu'à un moment donné, je suis qui, là, tu sais, pour à un moment donné juger de ça, puis c'est que ça devient plate. Là. Je veux dire, c'est tellement beau la médecine vétérinaire. Qui n'a pas déjà rêvé d'être vétérinaire? Et pourtant, on est une des professions où le taux de suicide est le plus élevé.
Hein? Oh, ouais, je
il y a
de
quoi
pas
retenir
ça.
Là-dedans. Là. Oui, oui, oui. C'est déplorable. Fait que c'est ça, tu sais, il n'y a pas un vétérinaire que je connais qui n'a pas des histoires déchirantes à raconter, qui ont rapport avec des clients qui ont été pas gentil avec eux. J'ai une collègue, 42 ans, il y a une semaine, elle nous a annoncé sur... on a un groupe privé des vétérinaires du Québec qui apprenait sa retraite. 42 ans, c'est pas parce qu'elle est riche. C'est parce qu'elle est plus capable.
Étonnée.
Fait que c'est une de moins, une qui vient de tomber au combat. Ouais. Ça met de la pression sur les épaules des autres personnes.
Mais je pense que mon hypothèse est bonne. T'sais, quand on va à l'hôpital, on présente notre carte d'assurance maladie, on ne voit pas l'argent passer. Mm. Mais quand on va chez un vétérinaire privé, il faut payer. Ou quand on va chez le dentiste, il faut payer, à moins que vous ayez des assurances aussi. Mais sinon, si vous payez le vrai coût, là, c'est astronomique. Là.
Ah, c'est excessivement cher.
Ces machines-là, que ce soit chez le dentiste ou chez le vétérinaire, on s'entend que ce ne sont pas les mêmes personnes qu'on traite, là, mais ces machines-là coûtent de l'argent. Ça, c'est, tout ça, il y a
tout ce qui est soins à la base est cher.
Exact. Que penses-tu des gens qui tentent de reproduire leurs animaux constamment? T'sais, moi, j'ai adopté mes chats chez un éleveur qui était très méticuleux, un éleveur enregistré qui me garantissait la bonne santé de mes chats, qui me garantissait mon chat aussi pour une certaine durée de vie. Là. Et puis j'ai fait ça de façon sérieuse, mais j'ai payé le prix pour mes chats. Mais au moins, mes chats, ils n'ont pas de problématique jusqu'à maintenant. Puis, Dieu merci, parce que ça coûte cher. Mais que penses-tu de ceux qui tentent de faire ça de façon amateur? Puis, ils donnent des animaux qui sont en mauvaise condition, qui peuvent être même dangereux pour les enfants. Tu sais, quand tu reproduis un mâle dominant qui est reconnu pour mordre constamment, mais tu te dis, regarde, c'est pas grave, là, tu sais, ils vont élever leur chien, mais ils ne mordront pas. Puis, tout d'un coup, tu te ramasses avec des chiens agressifs dans la société. C'est épouvantable, ça.
Ouais. En fait, il faut savoir que c'est toute une industrie, là. C'est particulier, là, l'élevage des animaux. Il y a des business en arrière de tout ça.
Ouais.
Là, tu parlais, tu sais, d'un individu, mettons, qui reproduit son animal un peu n'importe comment. Je dirais, c'est déplorable, mais c'est, à mes yeux, moins pire encore que les gens qui font vraiment une entreprise, là, tu sais, des fermes, entre guillemets, d'animaux qui sont voués à la reproduction, qui ne vont jamais voir la lumière extérieure, qui ne font qu'avoir porté par-dessus porté. Puis c'est pas un chien, deux chiens, trois chiens, là, c'est comme à peu près toutes les races possibles. Si une race est à la mode, il y en aura encore plus de cette race-là en particulier. Et qui, après ça, vendent, écoulent, excusez l'expression, mais c'est ça pareil, leur stock de chiens ou de chats en faisant croire qu'ils ont été élevés dans une belle petite famille. Puis là, ils nous montrent des photos, puis ci, puis ça. Et il n'y a rien de ça qui est vrai. Fait qu'il y a du monde qui font du gros, gros cash sur le dos de la santé des animaux. Et je vous dirais qu'il n'y a pas, je ne sais pas le nombre de centaines, si ce n'est pas de milliers de gens qui m'ont dit, je suis allée chercher mon animal, j'étais sûre que c'était un bon éleveur, j'avais vu des photos, etc., etc. Puis quand je suis arrivée, bien, exemple, l'animal ne ressemblait même pas aux photos que j'avais vues. Il n'a pas voulu que je voie la femelle, il n'a pas voulu que je voie le mâle, etc. Plein de red flags qui te font dire, OK, tu viens d'encourager l'industrie de la production animale.
Ça fait quasiment pitié. Là.
C'est triste. Là. Puis là, les gens, souvent, ils disent, bien là, je me suis dit, rendu là, je vais le sauver. Je comprends les gens de penser ça. Tu sais, toi, tu arrives avec tes enfants, tu as fait 2 heures de route pour aller chercher ton chien, tu ne vas pas repartir les mains vides. Mais là, tu vas malheureusement, par ton geste, contribuer à encourager ça à continuer. Puis tu vas probablement avoir toute ta vie à payer, bien, toute sa vie à payer des frais vétérinaires parce que la génétique, qu'elle soit comportementale ou physique, sera défaillante.
Oui, ça joue beaucoup, ça, c'est pas un mythe.
Ah! Non, c'est pas un mythe. Hey, un chien qui n'est pas bien socialisé, qui n'a pas eu, par exemple, contact avec ses compagnons chiens, mettons qu'on pense à un chien, et qui a été coupé de tout contact avec les humains, qui n'a pas rien vu de la vie, qu'on va sortir de sa cage à 2 mois pour le vendre, il n'a pas le même départ dans la vie qu'un autre. Là. Puis ça va rester, c'est imprégné, là, c'est... Fait que, puis là, je donne cet exemple-là, il y en a bien d'autres. La génétique, comme tu as mentionné, elle compte aussi pour beaucoup. C'est sûr qu'après ça, nous, on va essayer de faire tout ce qu'on peut pour rattraper tout ça. Mais des fois, le tort, il est déjà présent.
On est attaché à ces animaux-là qui sont, entre guillemets, défectueux. Quoique le mien, c'est un golden, je trouve qu'il est défectueux des fois. Là.
Il est un peu débile.
Bien, je te l'ai raconté. Hein. Je me couche le soir, j'essaie de ne pas faire de bruit. Puis lui, à un moment donné, il est dans la chambre avec sa mère. Qui est ma blonde. Puis là, je rentre dans la chambre, puis là, il considère que le plancher, c'est à lui.
Ça y appartient,
fait que
oui.
Là, il fait « Je l'entends juste au moins. Là, après ça, je me couche, j'ouvre la lumière de mon cellulaire, puis je l'entends faire «
Tu le déranges.
Puis le matin, quand je me lève, j'ai mon cadran qui sonne, je l'entends chialer. Ils ont manqué d'air, ces golden-là.
Tant qu'on les aime. On parle d'élevage et tout, puis ça me fait penser à tout ce qui est chien bâtard. Il y a comme une mode, on dirait, dans les dernières années, là, où là, ils essayaient de mixer toutes sortes de chiens sur Internet pour te dire à quoi le plus beau chien du monde pouvait ressembler. Puis là, si tu voulais un golden, maintenant, mettons, pour qu'il reste bébé toute sa vie, tu sais, parce qu'il y en a que c'est ça, il y en a qui achètent des chiens parce qu'ils les trouvent vraiment mignons petits, mais c'est parce que ça grandit, cette affaire-là. Hein? Ouais. Ça grandit vite en passant. Là, à peu près à 6 mois, c'est terminé. Là. Mm. Si tu veux être éleveur puis faire des mix, est-ce qu'il y a des recommandations, des choses à éviter aussi, surtout, en fait?
Bon, je tiens à spécifier que les mélanges de chiens, comme par exemple, je vais en prendre un, mais il y en aurait un bon paquet, le Golden Doodle, là, le fameux Golden Doodle, bien, les gens pense que c'est une race, mais c'est un chien croisé. C'est communément appelé un chien bâtard. Donc, il ne faut pas oublier que, encore là, si on parle d'encourager des bons éleveurs, des gens qui préservent les races, qui font attention à la génétique, qui veulent, par exemple, que le Golden garde ses caractéristiques à travers son évolution, à travers les portées, bien, lui, il travaille fort. Puis là, si on va chercher le Golden Doodle puis qu'on paye le même prix, bien, on n'encourage pas toute la même affaire. Mais c'est ça, les modes. Là, c'est la mode des Golden Doodle et autres mélanges. Mais vous achetez à gros prix un bâtard. C'est aussi simple que ça. Ceci dit, ça peut faire d'excellents chiens. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vous causer des problèmes de santé non plus. Je suis pas en train de dire, moi, je les aime tous les chiens. Puis j'aime tous les humains qui ont des chiens. Tu sais, je sais que souvent, quand les gens achètent ou adoptent, on devrait plutôt dire, bien, ils font avec toute leur connaissances, capacités, puis c'est à nous un peu aussi, les vétérinaires, de donner ces informations-là. Mais il ne faut pas se leurrer, ça reste quand même des chiens croisés. Puis souvent, le prix ne fait pas foi de la qualité de l'éleveur. Je reviens à ce que tantôt tu disais. C'est pas parce qu'on paye 2000 que nécessairement l'animal a eu tout, tu sais, a été bien encadré, que ses parents étaient en santé et tout ça. Souvent, c'est de la poudre aux yeux.
Quelqu'un qui me pose la question, est-ce qu'il vaut mieux vasectomiser le chien ou castrer le chien? C'est pas la même chose?
Non, la vasectomie, c'est d'enlever le canal déférent, qui est l'espèce de tuyauterie qui amène les spermatozoïdes au bout du pénis.
Ouais.
Comme chez l'homme.
Chez l'homme.
C'est ça.
Cette bout-là, je l'avais compris.
Ouais. Et la castration, on enlève les testicules. Fait qu'on fait. C'est sûr qu'ils deviennent dans les deux cas non fertiles, mais dans le cas de la castration, on enlève ce qu'on appelle les gonades, donc ce qui sert à produire les hormones sexuelles. Ceci dit, il y a d'autres glandes qui en fabriquent aussi, mais en très petite quantité. Fait qu'on enlève la principale source, par exemple, de testostérone du chien mâle. Donc, c'est sûr que ça a un impact. Ça a un impact sur sa croissance, son développement, sur son comportement, sur plein de choses. Est-ce que c'est toujours positif? Peut-être pas. Des fois, ça peut être négatif aussi. Il y a de plus en plus d'études là, sur quels sont les âges, comment on devrait faire. Il va y avoir du changement peut-être dans les prochaines années.
Ah, ce qui n'est peut-être pas nécessairement mauvais non plus. Là.
Natacha Barrette, tu es la propriétaire de Mon Vet à la maison. Toi, ce que tu pratiques, c'est l'euthanasie pour les chiens, les chats, les animaux qui sont en fin de vie. Donc, tu te déplaces chez les clients pour procéder et faire le travail. On peut te rejoindre de quelle façon, Natacha?
On peut aller sur mon site Internet, www.monvetalamaison.ca. On y trouve le formulaire là, pour faire la demande d'information. Il y a aussi mes réseaux sociaux Facebook qui sont quand même très actifs. Puis, si je peux me permettre d'avoir un dernier mot, j'aimerais ça remercier Justin Trudeau qui a fait ombrage à ma rencontre avec vous et qui m'a invité de répondre à la question sur le cru. Donc, merci Justin. Parce que si on veut mettre le feu dans vos réseaux sociaux, je pense que ça aurait été le cas avec la réponse à ma question.
On s'en reparlera.
Il faudra me réinviter pour avoir la suite.
Merci beaucoup. Audrey, je te souhaite de passer une belle journée. On t'écoute avec Denis tantôt. Est-ce que Véro se représente?
Présente physiquement, vocalement, ça reste à suivre. Là.
C'est pas aujourd'hui qu'elle va faire sa fameuse prestation.
Et petite. Non, il n'y aura pas de musique aujourd'hui. D'après moi, elle va être plus silencieuse que l'habitude. Manque de voix, la Véro.
Ça grinçait tantôt quand elle essayait de parler, donc j'ai hâte de voir ça. Donc, on t'écoute avec Denis vers 14h. Sinon, Pascal CV s'en vient dans les prochaines minutes. Pour l'instant, Bob Bissonnette, mettre du tape sur ma palette sur le boulevard. Salut!